Seigneur notre Dieu, il y a dans ta parole des merveilles, des trésors, des révélations, toutes sortes de bonnes choses pour nous, pour nos vies. Mais pour les saisir, Seigneur, nous avons besoin de la lumière de ton esprit. Envoie sur nous maintenant cet esprit de discernement, cet esprit de compréhension de ta parole, afin que nous puissions véritablement profiter de ta parole. Amen. Alors je vais demander à Ésaïe de venir prophétiser ici au micro. Nous lirons dans le chapitre 60. C'est bien le chapitre 60 et versets 1 à 11. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse. Ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer seront détournées vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, ainsi que de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba, ils porteront de l'or et de l'encens et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébaïoth seront à ton service. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel et me seront agréables. Et je ferai resplendir la maison de toute ma splendeur. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes fils avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te fait resplendir. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles et leurs rois seront à ton service. Car dans mon indignation je t'ai frappé, mais dans ma faveur j'ai compassion de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit afin de laisser entrer chez toi les ressources des nations et leurs rois avec leur suite. Alors j'aurais pu préciser, ça aurait été mieux de le faire au début, que la personne à qui s'adressent ces paroles, c'est Jérusalem, la ville de Jérusalem, Jérusalem restaurée. Alors nous lirons maintenant dans l'évangile de Luc au chapitre 3, évangile de Luc chapitre 3 du verset 1 à 6. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe,
la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, et les chemins raboteux seront nivelés, et toute chair verra le salut de Dieu. » Voilà donc ce n'est pas une, mais deux prophéties d'Ésaïe que nous avons à méditer aujourd'hui, puisque vous avez compris, donc c'est dit, hein, Luc cite un passage d'Ésaïe qu'on trouve d'ailleurs un peu avant la prophétie, le premier texte que nous avons lu, que Claude nous a lu, au chapitre 40, je crois, à partir du verset 3. Alors, ces deux prophéties n'ont pas exactement, dans le fond, grand-chose à voir l'une avec l'autre. On va voir un peu plus tard quelle relation on peut quand même faire entre ces deux. Alors je vous propose d'abord de réfléchir sur la première, le premier texte, donc cette première prophétie d'Ésaïe sur la gloire de la Jérusalem restaurée. Quand on lit un texte comme celui-là, on se rend compte de l'immense attachement que le peuple d'Israël peut avoir pour sa terre, la terre promise, la terre de Canaan, et puis en particulier pour Jérusalem. Je crois qu'il n'y a aucun peuple au monde qui soit plus attaché que ce peuple juif vis-à-vis du territoire d'Israël. Pour quelle raison? Peut-être l'ancienneté. Il faut quand même penser que cette terre a été donnée au patriarche, hein, Abraham, puis après Isaac, puis Jacob. Donc depuis, ça remonte à 3700 ans, hein, à l'heure actuelle. Alors évidemment, que ce peuple soit déporté de cette terre, eh bien, pour lui, il n'y a rien de plus cruel. C'est comme lui arracher sa vie. Et inversement, que ce peuple se voit promis à un retour sur cette terre, c'est le plus grand bonheur qui puisse lui arriver. Alors, il y a d'autres textes dans la Bible, hein, où on sent cet attachement, mais celui-là, je trouve en particulier... Alors, c'est une prophétie, donc il y a toujours des termes un peu allégoriques, un petit peu, peut-être poétiques aussi, je n'en sais rien, mais celui-là est vraiment très fort dans ce sens. Dans cette prophétie, il y a un aspect qui m'a particulièrement intéressé qui revient, vous allez le voir, à plusieurs reprises. Alors je vous donne les quelques versets qui reviennent régulièrement sur ce même aspect des choses. Quand les richesses seront détournées de la mer vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi, un peu plus loin, les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes fils avec leur argent et leur or. Un peu plus loin encore, tes portes seront toujours ouvertes afin de laisser rentrer chez toi les ressources des nations. Et puis plus loin, alors là on n'a pas lu, hein, mais toujours dans le même chapitre, à la suite on aurait pu aller plus loin jusqu'à la fin du chapitre. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois. C'est un langage prophétique. Hein. Ou alors encore, au lieu du bronze, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, du bronze, au lieu des pierres, du fer. Etc. Il y en a encore. Hein. Quelque chose qui revient donc, dans ce chapitre, c'est la richesse que les enfants d'Israël, en revenant sur leur terre, amènent avec eux. Ils n'arrivent pas les mains vides, ou les poches vides. Hein. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose, plus ancien encore, plus antérieur? Si vous allez chercher dans le livre de l'Exode, le moment précis, au tout début de l'Exode, au moment où les Juifs, les Hébreux, s'apprête à sortir du pays d'Égypte. Vous, si vous lisez bien, j'aurais pu noter la référence, j'ai une de ces flemmes, moi, quand je prépare ces méditations. Vous verrez que les Juifs, à un moment de partir, les Hébreux, eh bien, ils emportent avec eux de l'or, de l'argent, des richesses que leur donnent les habitants. Alors pourquoi ils leur donnent? Je crois que c'est parce que c'est une façon de leur dire « Tenez, prenez, mais surtout, allez-vous-en » parce qu'ils viennent de subir 10 fléaux phénoménaux, notamment le dernier qui était assez terrible. Et peut-être aussi de l'or qu'ils avaient accumulé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont restés, donc nous dit la Bible, 430 ans en Égypte. Et ils n'ont pas toujours été maltraités, c'est qu'à la fin. Donc pendant des siècles, enfin pendant 2-3 siècles peut-être, ils ont accumulé des richesses. Hein. Ils avaient, ben, vous savez comment ils sont, hein, ils font des affaires, hein, c'est des spécialistes. Hein. Et donc, alors c'est ça qu'il faut retenir. Ils sont partis du pays d'Égypte avec de l'or plein les poches. De l'or qui leur a servi d'ailleurs pas à grand-chose, parce que la première chose qu'ils en ont faite avec, en arrivant au Sinaï, c'est de le donner à Aaron, je crois, pour qu'il fonde une idole, un veau d'or, hein, que Moïse s'empressera de réduire en poussière et de leur faire boire, mélanger avec de l'eau. Enfin, bon, bref. Voilà. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont partis d'Égypte avec de l'or plein les poches. Et là, ce texte nous dit qu'en revenant, alors c'est le même trajet finalement, hein, ils viennent vers la terre promise, et bien ils viennent avec toutes les richesses, et c'est avec une insistance que le texte dit que ces richesses ont été prises sur les nations d'où ils viennent. Alors là-dessus, je me suis rappelé une prophétie, j'ai failli dire une prédiction, mais elle est forcément, c'est une prophétie, alors que j'ai entendu ou que j'ai lu, je ne sais plus, et je serais bien capable de vous dire qui l'a écrite, qui l'a prononcée, concernant les temps actuels. Cette personne disait que, à plus ou moins brève échéance, les États-Unis connaîtraient les États-Unis d'Amérique, hein, les États-Unis, connaîtraient une crise économique sans précédent, à côté de laquelle celle de 1929 et puis celle de plus récente de 2008 ne sont que de douces plaisanteries. Une crise épouvantable, des millions de gens seraient à la rue, et dans ce genre de crise, vous savez ce que c'est, hein, il faut toujours trouver un bouc émissaire, enfin, trouver quelqu'un à désigner du doigt, et de dire voilà, c'est la faute de tel et tel, et là la victime toute désignée serait, j'allais failli dire comme d'habitude, le peuple juif, enfin les juifs qui sont, vous le savez, beaucoup plus nombreux que n'importe où ailleurs dans le monde, puisqu'ils seraient actuellement 5 400 000 aux États-Unis, plus nombreux même qu'en Israël, hein, puisqu'en Israël ils sont actuellement 5 200 000, sauf erreur. Donc le premier pays au monde pour sa population juive, ce sont les États-Unis. Pour la petite histoire, le troisième pays, c'est la France, après Israël, avec je ne sais plus, quelques 500 000 juifs en France. Alors, cette prédiction disait que, devant cette vague d'antisémitisme qui se mettrait à monter brusquement, les juifs se décideraient à s'exiler en Israël, mais pas les mains vides. Vous savez que là-bas, ils ont des fortunes, hein, les 5 millions de juifs là-bas, ils tiennent les clés de l'économie, et ils emporteraient avec eux des milliards de dollars, des milliards, finissant de précipiter le pays, c'est-à-dire les États-Unis, dans la crise économique, pour définitivement l'enterrer, et ils arriveraient donc en Israël sans trop de soucis d'intégration, puisqu'ils auraient beaucoup d'argent. Et vous voyez, je veux croire que c'est une prophétie, et pas seulement comme ça une élucubration d'un économiste qui... Bon. Parce que ça rejoint parfaitement cette prophétie où non seulement les Juifs du monde entier reviendraient sur la terre d'Israël, mais avec des richesses des nations. Puis le texte va très loin parce qu'il dit que les nations seraient vraiment à leurs pieds. À leurs pieds. Bon. Alors, là, je viens de vous parler du temps présent, mais cette prophétie, au départ, là, elle concernait quoi? Elle concernait le retour d'exil des Juifs qui étaient partis donc à Babylone. Il faut savoir que Ésaïe a prophétisé. Ésaïe, c'est vers 700 et quelques, 750 avant Jésus-Christ. Hein. Il a prophétisé à la fois prophète de malheur, c'est-à-dire sur la déportation d'Israël en Babylonie, et il a en même temps prophétisé sur le retour, quelques 50 et quelques années plus tard, après l'exil. Sauf erreur.
70.
Bon, 70 ans. Voilà, vous êtes plus calé que moi. Mais alors, ce que je trouve formidable, c'est que, vous voyez, cette prophétie, elle a ce que j'appellerais un double effet. Une double réalisation. Première réalisation, eh bien, à l'époque de Babylone, etc. Voilà, ils sont revenus. Et puis, deuxième réalisation, eh bien, de nos jours, je dirais presque depuis... alors, c'est sur une période plus longue, hein, puisque c'est depuis 1948, recréation de l'État d'Israël, et presque tous les jours, toutes les semaines, enfin, des Juifs arrivent des quatre coins, si tant est qu'il y ait des coins au monde, hein, des quatre, voilà, de tous les coins du monde, reviennent sur la terre d'Israël. Et en faisant un peu des recherches sur tout ça, sur Internet, puisque maintenant on prépare les prédications sur Internet, je suis tombé par hasard sur une vidéo d'un rabbin qui s'exprimait en français, enfin quelqu'un qui fait autorité dans le judaïsme, et qui prêchait, qui disait que les juifs qui sont encore actuellement dispersés dans le monde entier, et notamment les juifs qui sont en Amérique, ont une responsabilité énorme, et il insistait là-dessus, une énorme responsabilité dans le fait que le Messie ne se décide toujours pas à venir, parce qu'ils l'attendent, hein. Ils l'attendent, il ne faut pas l'oublier, hein. Il disait le Messia. Le Messia ne peut pas venir parce qu'on n'est pas tous rassemblés. Et donc, il prêchait le retour. Voilà. Bon, je vais laisser maintenant de côté cette prophétie, je vais m'intéresser à l'évangile de Luc, que nous avons lu également. Donc, encore une fois, je le rappelle, Luc, ici, cite une prophétie, d'ailleurs, qui est un peu antérieure, hein, au chapitre 40, une prophétie d'Ésaïe. Quelle est l'intention de Luc ? Son intention, mais c'est simplement de dire, voilà, le moment là dont je suis en train de vous parler, le moment que je décris, il avait été prophétisé 700 ans plus tôt, hein, 700 et quelques années plus tôt, ou alors inversement, cette vieille prophétie d'Ésaïe que vous connaissez tous par cœur, eh bien voilà, elle est enfin réalisée dans ce moment que j'écris. Et quel est ce moment ? Eh bien, c'est le moment où Jésus entre en scène. Enfin, c'est une façon de parler. Au moment où Jésus rentre pleinement dans son ministère, à l'âge d'environ 30 ans, avec notamment la préparation, la prédication de Jean-Baptiste. Ce qui est particulièrement remarquable dans cette prophétie, hein, donc alors la prophétie, je vous la rappelle, hein, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, et les chemins raboteux seront nivelés, et toute chair verra le salut de Dieu. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'il y a c'est une prophétie, bon, quand on dit toute chair verra le salut de Dieu, bon, c'est bien, on est bien dans le contexte prophétique, mais en même temps c'est une exhortation. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, redressez. D'ailleurs, si vous regardez le texte d'origine, qui n'est pas tout à fait pareil, dans Ésaïe, il est encore plus orienté sur l'exhortation. Là où, par exemple, Luc a marqué « les passages tortueux deviendront droits », Ésaïe écrit lui directement « redressez les passages tortueux ». Voilà, vous pourrez vous amuser chez vous à faire une petite comparaison. Pourquoi Luc n'a pas cité exactement ? Mais peut-être parce qu'il l'a cité de mémoire. Hein. Avant, ils n'avaient pas autant de bouquins, ils n'avaient pas Internet, déjà, ça c'est clair. Et donc, il a peut-être... Voilà. Ou alors, deuxième hypothèse, Luc a voulu insister sur le fait que c'était bien une prophétie. Alors, il tourne le texte un peu dans le sens prophétique. Toute montagne, toute vallée ou toute colline seront abaissées. Alors qu'Ésaïe dit abaisser les montagnes, abaisser les collines, enfin. Vous voyez ? Voilà. Alors, pourquoi ça m'a intéressé particulièrement ? Parce que je me dis que c'est à la fois une prophétie, voilà ce qui va se passer, mais en même temps, ça a l'air de dire, si vous ne faites rien, ça ne se passera pas. Vous comprenez ? C'est donc à la fois exhortation et prophétie. Alors, ce moment qui est décrit hein, par cette prophétie, une voix crie dans le désert, la prophétie, finalement, elle annonce plus directement Jean-Baptiste. Hein, mais comme Jean-Baptiste lui-même prépare le terrain pour Jésus, on peut dire que cette prophétie annonce l'avènement du Christ. C'est vrai que Jean-Baptiste a eu un rôle essentiel dans la préparation du ministère de Jésus. On imagine mal, mais il était populaire. On le voit au moment de sa mort, au moment où Hérode lui fait couper la tête, enfin, l'exécute. Hérode hésite. Hérode est très embêté, non pas parce qu'il aimait Jean-Baptiste, au contraire, il le détestait, mais parce qu'il savait que Jean-Baptiste était une célébrité aimée et connue de tout le peuple. Donc on peut imaginer que ce sont des milliers de gens qui sont venus au Jourdain, et pas pour entendre des paroles agréables, hein, race de vipère, etc. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu ? Il les a engueulés, hein. Et il est baptisé. Et donc ce travail de Jean-Baptiste, cette mission de Jean-Baptiste a été essentielle pour préparer donc la mission de Jésus. Alors, voilà maintenant le moment de recoller un peu les deux prophéties entre elles, non pas dans le fond, dans ce qu'elles annoncent, ce qu'elles disent, mais dans la forme, parce que je me dis, si la première prophétie sur laquelle on a médité a un double effet, une double réalisation, donc je vous rappelle, retour d'exil de Babylone et retour actuel du peuple juif sur sa terre. Pourquoi cette prédication, cette prophétie, cette deuxième prophétie, donc, pourquoi celle-ci n'aurait-elle pas non plus une double réalisation ? Première réalisation, eh bien oui, l'arrivée de Jésus sur terre il y a 2000 ans. Deuxième réalisation, eh bien là, elle n'est pas encore arrivée, mais peut-être qu'elle ne saurait tarder. Et dans le fond, est-ce que nous n'attendons pas le retour de Christ ? Je vous pose bien la question. Eh bien, si vous l'attendez, eh bien, c'est certainement qu'il va venir, puisque ce retour a été prophétisé par Ésaïe, qui peut-être lui-même ne pensait pas aussi bien dire quand il a annoncé hein, donc cet avènement du Christ. Eh bien, peut-être, oui, il ne pensait pas qu'il l'annonçait deux fois. Alors, donc on est particulièrement intéressé pour nous-mêmes par cette prophétie. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit « Préparez les chemins du Seigneur ». Alors, quand je lis ça, quand je lis ce texte, « Rendez droit ces sentiers, les vallées seront comblées, les montagnes seront abaissées », il me vient en tête une image, c'est celle de, vous savez, l'autoroute en construction, quand elle était en construction, certainement, à travers nos montagnes, que ce soit la 75 du nord au sud ou la 89 d'est en ouest, vous imaginez faire passer des véhicules à 110 ou 130 km/h à travers un relief montagneux, comme chez nous. Eh bien oui, si vous avez eu l'occasion de jeter à l'époque un coup d'œil sur le chantier, vous aurez vu des bulldozers, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils rabotaient des collines, et vraiment, vous allez voir, regardez bien, des montagnes entières ont été tranchées pour faire passer l'autoroute, parce que pas question d'avoir des virages un petit peu secs ou des côtes trop pentues. Donc on a comblé des vallées avec justement les remblais des collines qu'on a rabotées, comblé des vallées, créé des ponts, etc., de façon à rendre la route la plus droite, la plus directe et la plus rapide possible. Alors évidemment, c'est une image. Quand Ésaïe invite à faire tout ça, il ne demande pas, il demande à personne d'aller louer un bulldozer et commencer à aller défoncer la campagne. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des opposants. Hein. Chaque fois qu'on construit une autoroute, on détruit la nature. Bon, c'est une image, mais c'est une très belle image. Il s'agit bien sûr pour nous de raboter, de niveler, j'allais dire, les sommets de nos orgueils, de nos jalousies, de combler les vallées de nos manques d'amour. Vous avez compris, hein, il ne s'agit pas bien sûr de prendre une pelle et une pioche et de s'attaquer aux montagnes. Alors je me dis que en ce temps précis de l'Avent et de Noël, eh bien c'est un temps particulièrement propice, c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous propose pour ce dimanche ces textes-là, c'est un temps propice pour véritablement nous préparer au retour de Jésus-Christ. Je pense qu'on fait une erreur, enfin, bon, c'est un grand mot, on passe à côté de quelque chose si on ne voit en cette période de l'Avent et la fête de Noël, on ne voit qu'un anniversaire. Parce qu'un anniversaire, finalement, c'est tourné vers le passé. On commémore quelque chose qui s'est passé, puis alors ça s'est passé il y a 2000 ans, hein. Ça commence à dater. Hein. Oui, on passe à côté de quelque chose parce que je pense que ce temps de l'Avent et cette fête de Noël doit nous tourner vers l'avenir. Et l'avenir, eh bien, c'est le retour de Christ parmi nous. Comment s'y préparer? Eh bien, en étant attentif. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ésaïe? Il dit, écoutez bien, lorsque vous entendrez une voix crier dans le désert, préparez-vous, nivelez vos montagnes d'égoïsme, comblez vos vallées de manquements, de toutes sortes de choses. Eh bien, ça voudra peut-être dire que ça y est, le Christ n'est pas loin, il arrive. Alors vous allez me dire, depuis que des hommes annoncent l'Évangile, c'est-à-dire depuis 2000 ans, ils ont à peu près le même message. Mais je pense qu'il faut être attentif à l'intensité de ce message. Et personnellement, j'ai l'impression que cette intensité est en train de croître. On entend des choses assez phénoménales, assez fortes, par rapport à des époques où c'était beaucoup plus, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, hein, au niveau de l'annonce de l'Évangile. Des milliers de gens se convertissent, des musulmans se convertissent, des hindous se convertissent. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Préparons-nous, écoutons, soyons attentifs. On sera surpris par l'arrivée du Christ. On sera tous surpris, il ne faut pas se leurrer. Quand il arrivera, ça sera toujours, puisque c'est dit dans la Bible, il arrivera le jour où on ne l'attend pas. Il y en a un qui sera au champ en train de labourer, l'autre sera... Vous voyez, c'est dans la Bible. Mais, en étant attentif, je pense que nous pourrons discerner ce moment où nous entendrons la voix qui crie dans le désert. Alors dans le désert, il n'y a pas besoin d'aller au Sahara. Hein. Le désert, c'est-à-dire un endroit où personne n'écoute. Parce qu'il n'y a personne. Les gens ne sont pas là pour entendre. Je pense que c'est ça, le désert. Ou alors, le désert, c'est pris dans le sens biblique aussi. C'est l'endroit où le désert, l'endroit où on peut rencontrer Dieu. Alors justement, dans le silence, on peut écouter la voix de Dieu. Voilà donc, que le Seigneur nous fasse discerner ce moment. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, effectivement, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Est-ce qu'il y en a encore pour quelques années, quelques siècles ou quelques millénaires? J'en sais rien. Mais ça n'a pas d'importance, parce que nous devons vivre vraiment, nous devons vivre la chose comme si c'était demain. C'est un devoir. Dans la Bible, il n'est pas dit « le Seigneur va venir » dans l'Évangile. Il dit « le Seigneur vient ». Vous avez remarqué ça ?« Maranatha », c'est « revient », c'est la demande. Mais il est dit « le Seigneur vient ». Alléluia, le Seigneur vient. C'est pas, il va bientôt venir, il est là, il est pas là, il vient. Et c'est dans ce sens que nous devons nous préparer. C'est-à-dire le retour de Christ. Si quelqu'un un jour me demande, mais quand est-ce qu'il viendra, d'après toi? Je dis, cet après-midi, là. Demain, allez, je laisse un petit délai, demain. Et c'est la seule façon de vivre pleinement l'espérance de l'Évangile. Voilà, que le Seigneur nous aide à cette préparation, hein, notamment en ce temps de Noël, et qu'il nous bénisse tous. Amen.